Une déclaration qu'on aime faire ici à l'Église, on va dire ceci, voici ma Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Ok, là, pensez à qu'est-ce que vous dites, ok? Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé, transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen, amen. Donc, j'ai vraiment hâte ce matin de continuer la série qu'on a commencée la semaine passée. En fait, il y a deux semaines, le premier dimanche de janvier, on a prêché un message et on a partagé les choses qu'on avait dans notre cœur. Et qu'est-ce qu'on croit? C'est que l'année 2008 est supposée d'être une année de quoi? De paix et de prospérité. On a dit que le mot paix en hébreu dans la Bible, c'est le mot shalom. Un tour à dire shalom à quelqu'un. Shalom veut dire quoi? Rien de brisé et rien qui manque. Donc, et souvent, on voit même que le mot shalom est traduit des fois paix et des fois le même mot est traduit prospérité. Pourquoi? Parce que aux yeux de Dieu et selon la Bible, la paix égale la prospérité et la prospérité égale la paix. Et ce qu'on a vu, et qu'est-ce qu'on a dit, et qu'est-ce qu'on a découvert dans la parole, c'est que la prospérité, c'est beaucoup plus que les finances. La prospérité, c'est une prospérité totale qui comprend esprit, âme et corps. Et le verset clé pour la série qu'on a commencé, c'est vraiment 3 Jean 2. On va regarder ça ensemble ce matin. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Il y a juste un chapitre dans le troisième épître de Jean, mais 3 Jean 2 dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est qu'on voit que la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut pour votre vie? C'est la prospérité. Et la santé, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Donc, il veut que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas prospérer? Ah, bon, je suis content de ne pas avoir des mains. Je pense qu'on a tous besoin de saisir ces choses. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? On a commencé en regardant les attitudes qu'il faut avoir si on veut prospérer. Parce qu'on a dit ici, la parole de Dieu dit qu'il faut prospérer comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que si dans ton âme, c'est-à-dire ton intellect, tes émotions, ta volonté, tu n'es pas prospère. Si tu as des pensées de pauvreté, si tu as une mentalité de pauvreté, tu ne vas pas être capable de prospérer. Mais si tu changes ta façon de penser, et si tu adoptes et tu reçois les pensées de Dieu qui sont au-dessus de nos pensées humaines, là, vous allez commencer à avoir la bonne optique. Vous allez avoir des bonnes attitudes. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est qu'il faut avoir la bonne attitude à propos de Dieu. Dieu n'est pas gratteur. Amen. Dieu veut qu'on soit béni. Il est un Dieu d'abondance, il est fidèle, il est un bon père. On a dit qu'il faut avoir une bonne attitude aussi par rapport à la richesse, n'est-ce pas? Que c'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise affaire d'avoir de l'argent aussi longtemps que l'argent ne vous possède pas. Vous êtes d'accord? On a vu cela. On a vu que c'est Dieu qui nous donne le pouvoir d'accueillir les richesses et que Dieu, même que, partout où Dieu va, on dit, on a vu le psaume qui disait qu'il laisse dans ses traces, je paraphrase, ses pas laissent des traces d'abondance. Quand Dieu marche, il laisse des traces d'abondance. N'est-ce pas merveilleux? Donc, il faut avoir la bonne attitude par rapport à Dieu, par rapport à la richesse. Et aussi, il faut avoir la bonne attitude par rapport à nos besoins. Amen. On a dit que avoir des besoins, c'est pas négatif aussi longtemps que les besoins sont rencontrés. Dieu a créé l'homme avec les besoins. Dieu a créé l'homme avec le besoin de manger. Mais c'est pas grave parce que il y avait un jardin abondant avec des arbres partout. Il y avait du fruit à masse. Il était capable de manger, être satisfait la journée longue, si vous voulez. Parce que Dieu a créé l'homme avec un besoin, mais une provision qui accompagnait le besoin. Et ce qu'on a vu pour terminer la semaine passée, c'est que nous avons besoin de plusieurs choses. Premièrement, nous avons besoin du pain à manger. Parce qu'on a tous besoin de manger, vous êtes d'accord? Je ne vais pas en parler trop parce qu'on s'approche de l'heure de midi. Mais on a tous besoin de manger et on a tous besoin d'une semence à semer. Donc ça, c'est un résumé un peu de ce qu'on a vu la semaine passée. Donc je vous encourage à procurer, si vous n'êtes pas là, soit procurer un enregistrement ou aller sur le site web www.lavicomblée.com ou .org et vous allez pouvoir écouter gratuitement les messages. Juste en passant, probablement le monsieur écoute, il va écouter ceci cette semaine, mais j'ai eu un email hier et pour moi c'était encourageant parce que c'était un email, la personne va rester anonyme, mais un email de quelqu'un qui était un leader même dans une église ici au Québec et qu'il a écouté le message de la semaine passée sur l'Internet. Il était content. Il a dit que c'était vraiment une bénédiction pour lui. Et qu'est-ce qu'il a partagé? Il a dit, j'ai l'intention de suivre toute la série sur l'Internet. Et encore ça, c'est un leader dans une église ici au Québec. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est qu'il trouve que les francophones, les chrétiens francophones ici au Québec, il a dit, on a tellement besoin de ce message parce que on a été très peu enseignés sur les principes de la prospérité selon la Bible. Donc, moi, ça m'a encouragé de savoir que, il y a d'autres personnes qui écoutent, d'autres chrétiens même qui écoutent et qu'ils ont hâte d'entendre les choses. Mais là, vous êtes là, live, en direct. Gloire à Dieu. Et nous allons voir les choses qui vont nous libérer. Encore, le message aujourd'hui est destiné à vous bénir. Il faut que vous sachiez que Dieu veut vous bénir au bout. Et il veut faire de vous une source de bénédiction pour les autres. Et ça, c'est la vraie prospérité. En fait, il y a quelques versets qu'on a vus. Et on va juste réviser ces versets rapidement. Et puis, on va voir le point principal du message pour ce matin. On voit ici, en 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, qu'est-ce que moi je dirais, c'est peut-être la meilleure définition de la prospérité si on parle du côté finance, parce que vous ne pouvez pas, les finances font partie de la prospérité, n'est-ce pas? Combien de vous avez remarqué que la dernière fois que vous êtes allé au dépanneur ou à l'épicerie, ils ont demandé de l'argent avant que vous partiez avec la nourriture? C'est pas assez drôle, hein, mais ils font ça tout le temps. Mais ça prend ça. Mais voici une bonne définition de la prospérité. 2 Corinthiens 9, 8 dit ceci. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Déjà, c'est bon, n'est-ce pas? Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, voici une bonne définition de la prospérité. Toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, mais avec un superflu pour que vous puissiez aider les autres, donner aux autres, faire avancer l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la prospérité selon Dieu. Amen. Et c'est ça que Dieu veut pour vous. Le message, c'est pas pour votre voisin, celui qui est assis à côté de vous ce matin, c'est pour vous. Tout le monde dit, c'est pour moi. Alléluia. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Et puis, il continue en verset 11 ici. Il vous rendra suffisamment riche. Mais là, déjà, il y a quelques personnes, si vous lisez ce verset avec vos lunettes religieuses, ça va pas entrer comme faux. Mais enlevez les lunettes religieuses, les lunettes fumées, si vous voulez, et on va lire comme faux. Il vous rendra suffisamment riche. Tout le monde dit riche. Regarde quelqu'un et dit, Dieu veut que tu sois riche. Ding, ding, ding. Tong, tong, tong. Ding, ding. OK? Est-ce que vous croyez qu'est-ce que vous venez de dire? Mais qu'est-ce que je... Mais il faut définir les termes. Est-ce que je suis en train de dire que Dieu veut que tu sois un millionnaire? J'ai pas dit ça. Mais Dieu veut que tu sois riche. C'est quoi riche? Avoir de quoi satisfaire vos besoins avec un superflu pour aider les autres. Amen. Et il y a différents niveaux de riche. Amen. Dans un sens, nous sommes tous riches par rapport à si on regarde les personnes comment ils vivent dans le tiers monde. Vous êtes d'accord? Donc, il faut regarder les choses avec la bonne perspective. Mais il vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez, quoi? Sans cesse vous montrer généreux. Maintenant, regarde la même personne et dis, Dieu veut que vous soyez généreux. Souvent, on dit, Dieu veut que vous soyez riche. Wouh! Et puis, Dieu veut que vous soyez généreux. Ah oui? Ça, c'est la raison pourquoi Dieu veut que vous soyez riche. Parce qu'il veut que vous soyez généreux. Alléluia. Donc, on a vu, comme j'ai déjà mentionné, les attitudes de prospérité la semaine passée. Mais aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et on va toucher vraiment au cœur, à la racine de ce message. Vraiment, on parle des clés, découvrir les clés de la prospérité. Première clé, c'est d'avoir les bonnes attitudes, la bonne pensée. Il faut croire que Dieu veut qu'on soit prospère. Mais là, on va aller creuser un peu plus à fond. On va découvrir davantage pourquoi et comment. Et on va parler aujourd'hui de vos priorités. Ce sont des priorités. Parce que je suis convaincu que vos priorités vont déterminer votre prospérité. Ce que vous aimez, la chose qui vous passionne, la chose qui est le plus important pour vous, c'est la chose qui va déterminer votre niveau de prospérité. Et c'est ça que Dieu veut. Parce que Dieu, la dernière chose que Dieu veut, c'est d'avoir ses enfants qui sont comblés de biens naturels, mais qui sont pauvres spirituellement. Ils ne savent pas quoi faire avec, parce que là, ils vont devenir matérialistes, ils vont devenir égoïstes, ils vont devenir gratteux, et ça ne serait pas drôle. Vous êtes d'accord? Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que notre cœur prospère, il veut que nous ayons les bonnes priorités. Et voici le verset aujourd'hui qui parle vraiment de cela, c'est Matthieu 6, 31, que nous, la plupart de nous, on pourrait le citer par cœur. « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Encore le mot besoin, c'est pas négatif. Mais là, on voit, ne vous inquiétez pas, qu'est-ce que vous allez manger, qu'est-ce que vous allez porter, où vous allez vivre. Aujourd'hui, le monde, il parle encore, cette semaine, je ne sais pas combien de fois, quand j'ai ouvert la radio ou j'ai lu quelque chose, les nouvelles, qui parlaient d'une récession aux États-Unis. Et qu'est-ce que la récession aux États-Unis, pas si ça va venir, mais quand ça vient, qu'est-ce que ça va faire pour nous au Canada? Donc, tout le monde en parle, tout le monde en parle. Moi, on va arrêter de parler de récession. J'aimerais mieux parler de récolte. Amen? Et bien sûr, si une récession arrive sur la terre, on n'a pas besoin d'être inquiet. On peut réussir même au milieu d'une récession. Amen? Pourquoi? Parce que nos priorités vont être à la bonne place et nos priorités vont déterminer notre prospérité. Et voici la clé. Ne cherchez pas ces choses, parce que c'est les païens qui courent après ces choses. Verset 33, cherchez premièrement. Comment on dit premièrement? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus. Priorité numéro un, c'est quoi? Chercher Dieu, son royaume et sa justice. Donc, si vous êtes capable de régler une fois pour toutes la question de vos priorités, qu'est-ce que vous aimez le plus? Qui est-ce que vous aimez le plus? Qu'est-ce que vous allez faire avec votre énergie? Avant tout, c'est quoi votre priorité dans la vie? Parce que si votre priorité dans la vie, c'est juste d'aller vous amuser, ou si votre priorité c'est de réussir votre carrière ou de ramasser de l'argent ou de mettre de côté beaucoup d'argent pour votre retraite et tout, il n'y a rien de mal là. Moi, je crois que Dieu veut qu'on réussisse au travail. Je pense que c'est la sagesse d'avoir de l'argent mis de côté pour la retraite, des choses. Ça peut être correct, mais qu'est-ce qui est important, hein? C'est quoi votre priorité? Pourquoi est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous cherchez en premier lieu? Le plaisir, hein? Les biens, les choses, ou est-ce que vous cherchez Dieu et son royaume? Si vous cherchez premièrement, et pour vrai, soyez honnête avec vous-même. C'est facile de dire, parce qu'on connaît tous la bonne réponse. Si quelqu'un vous demande, c'est quoi la chose la plus importante dans votre vie, la plupart de nous, on est capable de donner la bonne réponse intellectuellement, mais c'est Dieu. Dieu est numéro un dans ma vie. Mais est-ce que Dieu est vraiment numéro un dans notre vie? C'est ça la question. J'espère que la réponse est oui. Mais il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on s'examine soi-même. Est-ce que Dieu a vraiment la première place dans mon cœur? Ou est-ce que c'est mon emploi, mon épouse, mes enfants? Est-ce que c'est que toutes les bonnes choses? Mais c'est qui a... Est-ce que c'est mon bateau, mon auto, le golf, le football, la nourriture, les restaurants? C'est quoi la chose la plus importante dans ma vie? Dieu veut que Jésus soit numéro un. Amen? Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour garder les bonnes priorités? Je vais juste rapidement vous donner quatre principes qu'il faut suivre afin de garder Dieu numéro un dans sa vie. Et je vais vous donner ça avec quelques versets à méditer. Et par la suite, on va finir aujourd'hui, on va prendre la plupart de notre temps en parlant d'un système que Dieu a mis en place qui nous aide à garder les bonnes priorités. Est-ce que ça vous intéresse? Parce que ça marche, parce que Dieu veut que vous soyez prospères. Regarde quelqu'un d'autre et autre et dit, Dieu veut que vous soyez prospères. Alléluia! Wouh! C'est un bon message ce matin, n'est-ce pas? Première chose, si on veut garder les bonnes priorités, reconnaissez que Dieu est la source de votre vie. Si quelqu'un veut vraiment garder les bonnes priorités, il ne faut pas penser que c'est mon chum, c'est ma blonde qui est la source de ma joie, ou c'est mon emploi, ou c'est mon argent qui est la source de ma joie, ou même quand on parle des finances. Si vous pensez que c'est votre employeur qui est la source de votre revenu, vous avez un problème. Si vous croyez que c'est le gouvernement qui est la source de votre revenu, vous avez un problème. Il faut comprendre que Dieu est celui qui nous donne le pouvoir d'accueillir les richesses et c'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. C'est lui qui est la source. Et regardons ceci dans la parole. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu? À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de quoi? De l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Dieu n'est pas contre l'abondance, Dieu n'est pas contre les délices, car auprès de toi est la source de la vie. Donc, si je veux garder les bonnes priorités, il faut que je cherche Dieu, et si je cherche Dieu, toutes les autres choses me seront données par-dessus, parce que c'est lui qui est la source de la vie. Deuxième chose qu'on voit, protégez-vous de l'amour de l'argent. Si vous voulez vraiment garder Jésus numéro un dans votre vie, il ne faut jamais donner place à l'amour de l'argent. Savez-vous que c'est subtil? Beaucoup de personnes ont été séduites par les convoitises d'autres choses que Dieu. En fait, la Bible dit en Timothée, chapitre 6, verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » La Bible ne dit pas que l'argent est la racine de tous les maux, mais c'est l'amour de l'argent. Est-ce que vous voyez la différence? L'argent est neutre. Je peux faire des bonnes choses avec. Je peux acheter de la nourriture et donner ça aux pauvres, ou je peux acheter de la drogue et malheureusement, comme mon cousin a fait cette semaine, je peux mourir dans le péché. Mais l'argent n'est pas mauvais, mais c'est ce qu'on fait avec, n'est-ce pas? Mais l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Verset 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. En Dieu qui fait quoi? Qui nous donne avec abondance. Dieu nous donne avec, encore une fois, Dieu nous donne avec plus fort, abondance. Gloire à Dieu. Qui nous donne avec abondance, pourquoi? Il nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Donc Dieu n'est pas contre le fait qu'on puisse avoir du plaisir même. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. De la quoi? Libéralité et générosité. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir en trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Ou, comme une traduction dit, afin de pouvoir saisir la vraie vie. Savez-vous quoi? Il y a des hommes ici, on voit l'exhortation. Si vous êtes riche, si vous avez beaucoup de biens naturels, Dieu ne dit pas que c'est mauvais, il faut juste pas mettre sa confiance dans les richesses. Si vous avez de quoi, il faut être libéral, il faut être généreux et il faut chercher et saisir le vrai sens de la vie. Il y a un verset, je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, mais il y a un autre verset en Ecclésiaste chapitre 5, verset 10. Je vais juste le lire pour vous vite. Parce que c'est pas sur le PowerPoint. Mais en Ecclésiaste chapitre 5, on voit, et ici c'est, n'oubliez pas que l'auteur d'Ecclésiaste, c'est qui? Salomon qui était béni par Dieu, qui avait les richesses, peut-être il était l'homme le plus riche sur la planète quand il était en vie, mais quand même il a détourné son cœur à un moment donné de Dieu, il a donné place aux convoitises d'autres choses. Il n'a pas suivi vraiment tous les préceptes de Dieu comme il fallait faire. Et à cause de ça, il a vu la vanité de ses richesses. Et en Ecclésiaste chapitre 5, verset 10, la parole de Dieu dit ceci. C'est ça. Verset 9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Est-ce que tu as entendu? Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur? Donc on voit, juste avoir l'argent pour avoir l'argent, c'est vide, c'est la vanité. Plus tu en as, plus il y a des gens qui veulent en manger. Mais si tu as les priorités en place et t'aimes Dieu de tout ton cœur, là, Dieu est capable de vous bénir. Vous aurez de quoi satisfaire vos besoins et vous serez capable de vous montrer généreux sans cesse. Ça, c'est qu'est-ce que Dieu veut. Amen. Bon. Troisième principe, acceptez. On parle des priorités. Acceptez que vous ne soyez plus le propriétaire de vos biens. Ça, c'est une clé. Primordial si vous voulez prospérer. On appelle ça en anglais stewardship. Et c'est un bon mot que on appelle un steward en français un économe, mais c'est un mot que la plupart des fois, on n'utilise pas souvent le mot économe. Mais c'est quoi un économe? C'est quoi un steward, comme on dit en anglais? C'est un économe, c'est un gérant qui va gérer les biens qui appartiennent à quelqu'un d'autre pour la personne. On pense à Joseph. Joseph, il était économe, on pourrait dire, dans la maison de Potiphar. Potiphar, c'était un homme puissant, un homme riche. Et Potiphar a mis entre les mains de Joseph tous ses biens. Il gérait tout ce qui concernait les finances et les biens de Potiphar. C'était des grands biens. Donc, c'est lui qui paye les factures, si vous voulez. C'est lui qui dealait avec toutes les affaires. Mais est-ce que l'argent appartenait à Joseph? Non. C'est comme ma belle-mère, elle travaille comme caissière dans une banque. Et à tous les jours, elle gère des milliers de dollars. Il y a littéralement des milliers, elle travaille dans une banque depuis quoi? Combien d'années? 35 ans ou quelque chose comme ça? Laisse-moi vous dire, dans 35 ans, il y a d'argent qui a passé entre ses mains. Mais heureusement, ma belle-mère est une femme honnête et tout l'argent qu'elle gérait a resté à la bonne place. c'était pas son argent, mais elle était responsable à la fin de chaque journée. Il faut que ça balance à la scène noire. Pourquoi? C'est pas son argent. Elle gère l'argent de quelqu'un d'autre. Et c'est ça la chose qu'il faut comprendre. Quand on parle de nos biens, quand, une fois qu'on donne sa vie au Seigneur Jésus, notre vie ne nous appartient plus. Il nous a achetés par son sang. N'est-ce pas? C'est-à-dire que mon esprit, mon âme et mon corps appartiennent à Jésus. Et c'est-à-dire que le portefeuille, le compte de banque appartiennent à qui? À Jésus. Donc, il faut, laisse-moi vous dire, ça va vous libérer. Ça va vous libérer d'avoir cette attitude. Vous pensez, oh, Dieu veut tout prendre, tout ce que j'ai. Non, parce que voici le merveille de son royaume. Oui, vous êtes économe. Oui, Dieu est propriétaire maintenant de tous ceux qu'il vous confie, tous vos biens lui appartiennent en réalité. Mais savez-vous quoi? Que tous ces biens vous appartiennent aussi? Voici l'affaire. Dieu nous dit, donne-moi tout ce que tu as et je te donne tout ce que j'ai. Amen. Vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. J'ai un compte conjoint avec le Seigneur Jésus. Amen. Mais c'est ça la réalité. Quand on met en pratique les principes de la parole de Dieu, nous ne manquerons de rien. Nous aurons toujours de quoi satisfaire nos besoins. Est-ce que je suis en train de dire que nous n'allons jamais passer par un moment serré? J'aimerais bien être capable de vous dire cela, mais je serais menteur. Comme j'ai dit, on peut prendre Bill Gates, et Bill Gates peut être sur son bateau, s'il a un bateau, je ne sais pas, s'il n'en a pas, il peut en acheter 10 demain s'il veut. Mais Bill Gates, tu sais, c'est qui Bill Gates? Celui qui a fondé Microsoft, c'est quelqu'un qui a des millions, milliards et des milliards et des milliards de dollars. Mais si on prendrait Bill Gates et lui, il se promène sur son bateau dans, je ne sais pas, dans les Caraïbes ou quelque chose, et tout d'un coup, le bateau coule, et il se sauve, et il se trouve sur une île déserte quelque part. Le bateau est au fond de la mer, il a juste son maillot de bain et un panier. Est-ce que le gars est pauvre? Non, mais il est séparé temporairement avec ses ressources, n'est-ce pas? Mais c'est juste une question de temps qu'il a encore tout l'argent nécessaire. Il peut monter toute une flotte de bateaux pour venir au secours, s'il voulait. L'argent ne peut pas tout acheter, mais laisse-moi vous dire une chose. Il faut que vous sachiez que quand vous venez à Jésus-Christ, que vous cédez vos droits de contrôler vos biens. Et là, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Mais si vous écoutez, vous allez voir que si vous n'êtes pas heureux ce matin, si vous n'êtes pas vraiment heureux de qu'est-ce que je dis, c'est parce que vous n'avez pas compris le cœur de Dieu. Parce que quelqu'un qui comprend qu'est-ce que je suis en train de dire va dire, wow, quelle bonne affaire! Ouh! Qu'est-ce que tu ferais, hein? Si tu rencontres Bill Gates, il dit, on va en faire une affaire. Donne-moi tout ce que tu as dans ton compte. Et je vais te donner accès à mon compte n'importe quand. Tu as juste besoin de me donner tout ce que tu as ou donne-moi accès à ton compte. Tu peux garder l'argent là-dedans, mais donne-moi accès, juste donne-moi le droit que si au moment donné j'ai besoin de ton argent, je peux m'en servir. OK? Mais voici l'affaire. Si jamais tu as besoin de mon argent, tu as juste à me demander. Et si je vois vraiment que c'est une chose dont vous avez besoin, c'est à vous. Est-ce que vous signerez le contrat? Combien de vous? Si vous saviez que c'était un homme honnête et intègre, si vous saviez que c'était quelqu'un qui vous aimait, si c'était quelqu'un qui avait votre intérêt à cœur, si c'était quelqu'un qui a déjà versé son sang pour vous sur la croix. Bill Gates, je ne sais pas. Jésus de Nazareth, Montre-moi où signer. Ma vie lui appartient. C'est bonne affaire. Et c'est pourquoi, on ne peut pas perdre avec ça. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous avez été rachetés en grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Puis, finalement, mettez votre trésor à la bonne place et votre cœur suivra. On parle des priorités aujourd'hui. Mettez votre cœur à la bonne place et votre cœur suivra. Savez-vous quoi? Dieu ne s'intéresse pas vraiment à votre petit compte de banque ou votre petit portefeuille. Ce n'est pas trop impressionnant pour lui, vous êtes d'accord? Mais la chose qu'il veut, il veut avoir accès. Il ne veut pas avoir accès à vos fonds. Il veut avoir accès à votre quoi? À votre cœur. Il veut savoir qu'à n'importe quel moment, n'importe quelle situation, il pourrait dire, aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses ceci pour moi. Il veut savoir que s'il demande, demain matin, aujourd'hui, j'aimerais que tu traverses la rue, que tu cognes la porte de ton voisin, que tu lui offres un gâteau et que tu lui parles de mon amour. Il veut savoir qu'il peut te faire confiance. Il veut savoir que ton cœur est soumis à lui. Est-ce que vous me suivez ce matin? Votre vie lui appartient. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour être sûr que notre cœur est vraiment à la bonne place avec Dieu? Verset 19 de Matthieu 6, il y a une clé. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton quoi? Là aussi sera ton cœur. » Est-ce que vous voyez, encore, c'est pas Pasteur Ken qui dit ceci, c'est Jésus de Nazareth, celui qui a versé son sang pour vous. Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus a dit que le cœur et le trésor vont de pair. Et on sait que c'est vrai, n'est-ce pas? Quelqu'un qui adore les sports, on a juste à regarder. On peut lire le registre dans chaque de quelqu'un et voir qu'est-ce qu'il a acheté dans un mois ou dans un an, et on peut voir les choses qu'il aime. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que son argent suit son cœur. Et son cœur suit son argent. Plus on investit dans une chose, plus on a investi dans quelque chose. Là, si quelqu'un achète une auto qui est luxueuse et qui coûte cher, essaye de le graffiner avec une clé. C'est pas ça! Ça va toucher le cœur. Quelqu'un qui, imagine, hein? Tu as déjà vu cela, des fois les pubs à la télévision, une auto flambe à neuf et tout d'un coup, il y a quelque chose qui tombe et écrase l'auto et la personne est comme, on dirait que la roche est tombée sur sa tête et il ressent la douleur. Pourquoi? Parce que son cœur a suivi son argent. Il a mis tellement d'affection dans cette affaire, dans ce morceau de métal et de caoutchouc et de plastique, que quand on graffine l'auto, c'est comme, ça fait presque mal, littéralement. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Quelqu'un qui a épargné pendant des mois pour acheter une belle robe. Moi, j'ai jamais fait ça. Et la personne, depuis des mois, a rêvé de mettre cette belle robe et de sortir avec son mari ou quelque chose, je ne sais pas. Mais tout d'un coup, rendu au restaurant, quelqu'un renverse une tasse de café et... Oh, ma robe! Ça touche, mais c'est pas juste la chaleur du café qui fait ça, mais... C'est le fait que... c'est ma robe! J'ai épargné 4 mois pour acheter cette robe, et là, il y a une tache, qu'est-ce que c'est ça, là? Le cœur suit le trésor. Donc, voici un truc. Voici un bon truc. Voulez-vous que votre cœur soit à la bonne place? Mettez toujours votre trésor à la bonne place. Si vous dites, mais moi, j'ai pas vraiment un cœur pour les missions. Je suis pas vraiment un cœur pour les gens en Outre-mer. Voulez-vous avoir un cœur pour les missions? Donnez une offrande pour les missionnaires. je vous garantis que vous serez plus intéressé à ce qui se passe en Outre-mer quand vous avez semé et investi. Vous voulez avoir un cœur pour les enfants malades ou quelque chose, donne un don à l'hôpital. Hein? Quand l'hôpital Sainte-Croix vous envoie quelque chose, est-ce que vous voulez nous aider à procurer tel équipement? Si vous voulez avoir plus un cœur, si vous avez à cœur de faire quelque chose, faites-le! Et laissez-moi vous dire que votre cœur va suivre. Vous serez plus intéressé la prochaine fois. Amen? Donc, il y a plein de choses. Vous voulez avoir un cœur pour les orphelins, donnez pour les orphelins. Vous voulez avoir un cœur pour l'Église, donnez pour l'Église. Si vous voulez avoir un cœur pour l'éducation de vos enfants ou quoi que ce soit, donnez un peu pour ça. Vous voulez avoir un cœur pour cultiver une romance dans votre mariage, messieurs? Investissez un peu dans une romance dans votre mariage. Sortez avec votre épouse. Une fois par an. Non. Juste pour vous réveiller. Mais il va falloir que je... Il faut vraiment que je garde cette femme-là parce que j'en ai investi beaucoup. Non, non. C'est pas dans ce sens-là.
On l'attend, on n'a
C'est juste pour avoir un peu de fun. Non, on s'engage. Laisse-moi vous dire une chose. Moi... On est très fort là-dessus. L'engagement jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Mais, regardons. Dieu veut à tout prix que nos priorités soient les bonnes. Amen. Reconnaissez que Dieu est la source de la vie. Protégez-vous de l'amour de l'argent. Acceptez que vous n'êtes plus le propriétaire de vos besoins. Et mettez votre trésor à la bonne place et votre cœur va suivre. Amen. Mais savez-vous, que si je prends tous ces quatre principes que Dieu a mis en place dans son royaume, un système qui est tellement efficace, que si on se sert de ce système et si on utilise le système, que les quatre choses que je viens de dire, de reconnaître que Dieu est notre source, hein, de se protéger de l'amour, de l'argent, toutes les quatre choses qu'on vient de mentionner. Si on se sert du système que Dieu a mis en place, que automatiquement, ou presque, toutes ces quatre choses vont rester en ordre et nos priorités vont rester en ordre. Donc, c'est bon parce que c'est une forme de protection que Dieu a mis. C'est comme une police d'assurance. Savez-vous que si on a une police d'assurance, on paye une certaine prime, mais il y a des bienfaits qui viennent avec, n'est-ce pas? On sait que si on fait ça, on donne un montant minime, mais si on fait cela, les bienfaits sont énormes. Mais qu'est-ce qu'on va voir pour le temps qui nous reste aujourd'hui? On va parler du système divin que Dieu a mis en place pour protéger vos priorités. Et c'est, je vous avertis en avance, que si vous écoutez ou vous regardez ces choses avec les lunettes religieuses, vous allez manquer toute la bonté que Dieu veut vous donner aujourd'hui. Encore, combien de vous êtes convaincus que Dieu veut vous bénir? Encore. Le but aujourd'hui, c'est pas que vous quittiez en étant diminué ou avec moins. Dieu veut que vous quittiez aujourd'hui avec plus. Plus dans votre cœur, plus dans vos pensées et plus de révélation de sa bonté et de son système qui va vous protéger et qui va vous aider à garder les bonnes priorités. Parce que si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et un verset en Malachie, chapitre 3, verset 7, c'est un verset que, pour ceux qui ont la révélation, c'est un verset que les gens aiment. Parce qu'il y a tellement des bons principes là-dedans. Ceux qui ne comprennent pas le cœur de Dieu, il y a des gens qui ont peur de ce verset. Je vous avertis tout de suite. Il n'y a rien à craindre, là. Au contraire, il y a tout à gagner dans ce verset. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Combien de vous voulez vraiment protéger vos priorités? Regardons ceci. Depuis le temps de vos ancêtres, et ici, juste pour vous donner le contexte, OK? C'est dans le temps de Néhémie, on a les enfants d'Israël qui sont retournés à Jérusalem pour rebâtir les murs de Jérusalem et de reconstruire la ville, etc. Mais quand ils sont arrivés, ils ont arrêté de suivre les principes de la parole de Dieu. Ils ont arrêté d'honorer Dieu avec le bien. Et Dieu, et à cause de ça, il est en temps de famine, si vous voulez, est venu, presque famine. Et il y avait même le récolte, parce que n'oubliez pas, c'était une société d'agriculture. Tous leurs champs ont été envahis, même par les sauterelles, et les insectes ont mangé tout. Et tout ce qu'ils avaient a été dévoré. Donc, ils vivent dans un temps difficile. Et Dieu, dans son amour, veut aider ce peuple à sortir de leur misère. Qu'est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient sortir de leur misère? Encore ça, c'est le cœur de Dieu. Regarde quelqu'un d'autre et dis, Dieu veut t'aider à sortir de ta misère. Tu dis, mais je ne suis pas misérable, mais tant mieux. Mais ça peut vous aider à éviter la misère. Amen. Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi et moi je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, comment devons-nous revenir? Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. Et puis, vous demandez, en quoi avons-nous donc volé? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Et là, il parle au peuple d'Israël que toute la nation a abandonné le principe de donner la dîme et de donner les offrandes. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité, dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve. C'est la seule place que je connais dans la Bible où la Bible dit de mettre Dieu à l'épreuve, mais voilà. Mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors vous verrez si bien, si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et ne vous comble pas avec une quoi? De ma bénédiction. Une surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore. À chaque fois que les fermiers veulent cultiver de quoi, les insectes, les sauterelles viennent et bouff, c'est tout rasé, tout mangé, ils n'ont rien. Dieu veut les faire sortir de la misère. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, ou je détruirai l'insecte qui dévore, il ne détruira plus les produits de vos terres, et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront plus de leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et toutes les nations vous diront quoi? Toutes les nations vous diront quoi? C'est quoi le cœur de Dieu dans cela? Il veut que vous soyez heureux. Donc, si, je sais que des fois, on parle de ces choses et les gens deviennent nerveux des fois. Est-ce que j'ai raison? Oui? Des fois, pourquoi est-ce que tu parles de ça? Parce que Dieu veut que vous soyez bien heureux. Parce que Dieu veut vous bénir. Parce que Dieu, votre Père, votre Papa, et Jésus qui a versé son sang pour voir la croix, il veut que vous ayez toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins avec un superflu. Dis-moi, qu'est-ce qui est mal à ça? Dis-moi, qu'est-ce qui est négatif dans le fait qu'on prêche un message qui est destiné à vous bénir au bout? Pourquoi est-ce que quelqu'un serait nerveux? Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Mais je comprends intellectuellement, mais je comprends pas parce que je sais que ces principes marchent. Regardons bien. Pour vous, et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Donc là, on voit quelque chose. On parle de garder les bonnes priorités. Et Dieu a mis en place un système, parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Dieu a mis en place un système pour bénir son peuple. OK? Et ici, nous avons un exemple qui se passe dans le contexte de l'Ancien Testament. Un exemple. OK? Des personnes qui ont désobéi à Dieu et Dieu les appelle à l'obéissance de mettre ses principes en pratique afin de devenir un pays de délices. Et on voit que la clé, Dieu a dit, le problème, c'est que vous me volez. Comment est-ce qu'un homme peut-il voler Dieu? Vous me volez dans vos offrandes et vos dîmes. Deux choses différentes. Tout le monde dit offrande et dîmes. Oh, pasteur! vous avez dit les deux mots. Offrant les dîmes. Non, je plaisante. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? On va voir. Mais on voit que Dieu veut nous bénir, et voici le système qu'il a mis en place. OK? Et premièrement, les gens vont dire, mais c'est quoi la dîme? Le mot dîme veut dire littéralement 10%. OK? Je vais vous montrer quelque chose. Là, j'ai fait l'épicerie. J'ai des pommes. Combien de pommes? Compte avec moi. Plus fort! J'ai besoin d'aide. Ah, j'arrive. Voilà, maintenant ça marche, n'est-ce pas? OK, donc, il y a combien de pommes? Donc, la dîme, c'est un pourcentage prédéterminé par Dieu. Et si on regarde le prochain verset sur le diapo, qu'est-ce que ça dit dans la parole de Dieu? Si on peut juste continuer ici. Toute dîme de la terre, toute 10% de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc, si j'ai 10 pommes, c'est quoi la dîme de ça? Ça, c'est la dîme. OK? Donc, vous savez que ça, c'est pas la dîme. Vous êtes d'accord? Parce que littéralement, la dîme, c'est 10%. Ça, c'est pas la dîme non plus. Ou si je prendrais un quart de cette pomme, est-ce que ça, c'est la dîme?
Non,
parce que c'est 10%. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que Dieu a prédéterminé que quand on reçoit les récoltes, ou que ça soit sous forme pour un fermier qui récolte les graines ou les pommes, ou que quelqu'un qui va à l'usine et qui travaille pendant une semaine et il reçoit un chèque de paie, donc on prend le premier 10% et qu'est-ce qu'on fait? La Bible dit que ça appartient à l'Éternel. En réalité, nous savons que 100% de tout ce que nous avons lui appartient. Mais Dieu a dit spécifiquement quoi faire avec la dîme, avec les 10%, n'est-ce pas? C'est prédéterminé par Dieu. Après ça, c'est quoi une offrande? Les offrandes sont déterminées par celui qui donne. Regardons le verset. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime quoi? Celui qui donne avec joie. Donc, je veux que vous voyez la différence entre la dîme et les offrandes. La dîme, c'est prédéterminé par Dieu. Je reçois 10 pommes et automatiquement, je prends la première pomme et je dis, Seigneur, ça t'appartient. Tu m'as déjà dit que c'est à toi. Donc, dans le fond, je n'ai pas le droit de faire quoi que ce soit avec ça, sauf de te le remettre. Amen? Mais regarde combien de pommes Dieu laisse entre mes mains pour gérer pour lui. Il reste 9 pommes. Donc, si je veux faire une offrande, là, je peux, comme j'ai résolu dans mon cœur, je peux décider de donner 2 ou 3 ou 4. Être sûr que j'ai assez des choses pour manger, mais je vais offrir à quelqu'un d'autre les autres pommes. Ça, c'est une offrande. Je peux décider de donner 1 pomme, 2 pommes, 3 pommes, 1/4 d'une pomme, une petite bouchée de pommes. Ça, c'est comme j'ai résolu dans mon cœur, sans tristesse ni contrainte. Dieu me donne la liberté de choisir qu'est-ce que je fais avec ça. Mais savez-vous pourquoi est-ce que Dieu fait cela? Parce que à chaque fois que je reçois quoi que ce soit, le fait que je dise, Seigneur, je reconnais que tu es ma source, c'est toi qui m'as donné ces 10 pommes, donc je te redonne qu'est-ce qui te revient. Amen? Je reconnais que tu es ma source. Moi, j'aime pas ces pommes plus que je t'aime, Seigneur, donc ça me dérange pas de te... Je suis content même, je suis heureux de te remettre qu'est-ce qui t'appartient. Amen? Sauf qu'on ne peut pas lancer une pomme à Dieu, vous êtes d'accord? On va voir dans quelques minutes comment on peut le donner à Dieu. Les offrandes sont déterminées par celui qui donne. Mais voici une chose, parce que tout de suite, je vais le dire. Il y a des personnes qui vont dire, « Mais écoute, Pasteur Ken, là, tu as lu un verset de l'Ancien Testament qui parle de la dîme. Ça, c'est des personnes qui étaient sous la loi de Moïse, et nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, donc... Je ne pense pas que le principe de la dîme s'applique aux chrétiens dans la Nouvelle Alliance. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu cela? Levez la main si vous avez entendu cela. Et des personnes vont battre même pour garder le droit de ne pas honorer Dieu avec la dîme. Ils vont être même fâchés. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un va battre tellement fort pour rester dans la misère. Je ne comprends pas. Je suis en train de dire, Dieu veut vous donner une police d'assurance, vous aurez toujours de quoi satisfaire vos besoins, vous donner un superflu, vous serez dans l'abondance. Tu dis, non, pas pour moi, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour ceux qui étaient sous la loi. OK? C'est correct. Et voici qu'est-ce qu'il faut comprendre. La dîme, c'est un point très important. La dîme est un principe spirituel. C'est un ou une principe? C'est un principe spirituel à obéir qui a précédé et qui a dépassé la loi de l'Ancien Testament. Ce que beaucoup des gens ne comprennent pas, c'est que la dîme, c'est un principe, tout le monde dit un principe. C'est pas une question légale. Un chrétien n'est pas obligé de donner la dîme. Si vous ne honorez pas Dieu avec la dîme, vous allez probablement, moi, je suis sûr, si vous êtes né nouveau, vous allez aller au ciel. Vous n'allez pas manquer le ciel parce que vous ne donnez pas la dîme. Votre salut ne dépend pas de qu'est-ce que vous donnez. On ne peut pas acheter son salut. Vous êtes d'accord? C'est pas du tout la question. C'est pas une loi. Est-ce qu'on est obligé de donner la dîme? Non. Personne n'est ici et est obligé de donner la dîme. Il y a des sectes qui vont dire, il faut que tu donnes la dîme. Si tu veux faire partie de notre église, il faut que tu donnes la dîme. Non, 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 non. Personne n'est obligé de faire ça. Sauf que je suis convaincu que si vous ne le faites pas, vous allez passer à côté d'une grande bénédiction. Amen? Et je ne veux pas que vous manquiez ça. Ma mère, et j'aime ma mère, vous connaissez ma mère, pour la plupart de vous, ma maman m'a enseigné quand j'avais 9 ans le principe de la dîme. Elle était avec moi autour de notre table, dans la cuisine, et elle m'a enseigné c'est quoi la dîme et comment on aurait dû avec les prémices et comment prendre 10% de tout ce que nous recevons et de le redonner à Dieu tout de suite. Et je fais ça depuis l'âge de quoi, 10 ans. Et laisse-moi vous dire que ça marche. Alléluia. Et j'ai jamais regretté ça. Et j'ai eu des moments serrés, plus que serrés. J'ai dit ça la semaine passée. Mais Dieu a toujours pris soin de moi. Mais regardons quelque chose. On voit le principe de la dîme, même avant la loi de Moïse, Genèse chapitre 14. Regardons, c'est sur le PowerPoint, mais pas sur la feuille. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la, quoi? Laisse-moi juste vous poser une question. Si vous connaissez votre Bible, est-ce que Abraham était un homme sous la loi de Moïse?
Non.
C'est 400 ans avant que Dieu a établi la loi. Le Nouveau Testament dit que nous ne sommes plus sous la loi. Mais lui n'était pas sous la loi non plus. Mais il y avait quelque chose dans le cœur. Comment on dit le cœur? Il y avait quelque chose dans le cœur, un principe spirituel que Abraham a compris, a saisi. Et quand il est allé au combat contre ces cinq rois, et quand Dieu lui a donné la victoire, il avait un grand butin, la première chose qu'il voulait faire, c'est donner la dîme à Dieu. Ce n'est pas une chose légale. Donc, est-ce que je suis obligé de le faire? Non, vous n'êtes pas obligé. Personne va vous enseigner que vous êtes obligé de donner la dîme. Non, mais si vous connaissez Dieu, vous allez vouloir le faire. Au moins la dîme. Parce que la dîme, le principe, comme on voit dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam et Ève, de tous les arbres, vous pouvez manger, sauf il y a un arbre au milieu, touchez pas à ça. Il y a un principe. Dieu réserve toujours quelque chose. Pourquoi? Il veut protéger le cœur de son peuple. Dieu ne veut pas que vous soyez payés semaine après semaine ou aux deux semaines, que vous recevez des biens et que vous oubliez que c'est Dieu qui est la source de votre vie. Donc, le fait qu'à chaque fois, sans exception, vous recevez de quoi, vous dites, ah, je reconnais, je m'en souviens, Dieu, c'est toi qui es la source, je te donne la dîme, je te donne la dîme, je t'honore. C'est que ça garde mon cœur contre l'amour de l'argent, je reconnais que Dieu est la source de ma vie, amen. Je reconnais que ce n'est pas moi qui est propriétaire de mes choses et je garde mon cœur à la bonne place, je mets mon trésor à la bonne place et mon cœur suit. Vous êtes là? Vous dites, oh, mais ça c'est Abraham. Regardons un autre exemple, Genèse 28. Donc on voit que c'est un principe tellement important pour Abraham, qui est appelé le père de ceux qui croient, n'est-ce pas? Qu'il a transmis ça à son fils, Jacob. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la quoi? La dîme de tout ce que tu me donneras. Quand tu me donnes 10 pommes, Seigneur, je vais toujours te donner au moins une pomme pour la dîme. Amen? Des siècles avant la loi de Moïse. Moi, c'est un enseignement aujourd'hui que vous avez besoin de saisir. Encore les personnes, mais moi, le Nouveau Testament ne parle pas de la dîme. Mais oui, le Nouveau Testament mentionne la dîme à plusieurs endroits. Jésus l'a mentionné. En Hébreux chapitre 7, on voit verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Ça parle de qui? Qu'est-ce que ça me montre? Moi, je ne peux pas pitcher une pomme à Dieu. Vous êtes d'accord? Mais je peux donner une pomme à son œuvre. Je peux donner une pomme à un homme sur la terre au nom de Jésus. Et même si c'est un homme dans le naturel qui reçoit la pomme, c'est Jésus au ciel qui va percevoir. Donc, à chaque fois que je donne au nom de Jésus, parfois, par la foi et par obéissance, je suis en train de donner à Dieu. Amen. Que ça soit la dîme, et je crois, et on n'a pas le temps d'y aller, mais je crois apporter toutes les dîmes dans leur totalité à la maison du trésor. Je crois qu'on peut faire une application à cela à l'église locale aujourd'hui. Moi, je crois, j'ai toujours cru que la dîme devrait être apportée à l'église locale, le corps de Christ, l'épouse de Jésus ici sur la terre. Et les offrandes peuvent être distribuées aux missionnaires, aux autres, aux pauvres. Mais tu sais, quand je donne une pomme à quelqu'un qui est dans la pauvreté et j'aide la personne, si un homme pauvre prend la pomme, c'est Jésus qui est au ciel qui l'aperçoit aussi. Donc, je suis en train de donner à Dieu à travers les hommes. Et savez-vous quoi? Luc 6:38, donnez, il vous sera donné, une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Quand nous donnons à Dieu à travers les hommes, Dieu nous donne comment? À travers les hommes. Les pommes ne tombent pas du ciel. Hein? Un homme va le planter, un homme va le récolter. Oui, c'est ça. Votre chèque de paie, ça va être donné à travers un homme. Si vous recevez un chèque du gouvernement, ça vient à travers les hommes. Mais c'est Dieu qui vous bénit à travers les hommes. Et vous bénissez Dieu à travers les hommes en retour. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? Juste bref, pour terminer. Si on veut mettre cette principe, parce qu'on voit ici, regardons, on va finir le, c'est pas sur le PowerPoint tout de suite, on va mettre ça sur hold, mais si on reviendrait juste dans nos pensées à qu'est-ce que Jésus ou le Seigneur a promis de faire, si on apporte à la maison du trésor toutes les dîmes, il a dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si j'ouvre pas pour vous quoi, les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous une bénédiction en abondance, et je vais menacer pour vous celui qui dévore. Trois choses que Dieu a promis de faire. Ouvrir les écluses des cieux. Pour un fermier, c'est merveilleux. Ça peut être la pluie naturelle qui tombe et fait pousser les plantes et les récoltes. Je vais répandre sur vous une bénédiction abondante. Vous ne pouvez même pas contenir. Et je vais menacer pour vous les sauterelles, les insectes ne vont plus venir manger vos affaires. Et Dieu va faire la même chose pour nous aujourd'hui. Si on honore le Seigneur avec les prémices, est-ce que vous êtes d'accord que dans le fond, c'est une bonne affaire? On a 10 pommes, on donne juste une pomme à Dieu. Et là, On a quand même 9 pommes. Si on veut les manger, on peut. Ou si on peut donner un peu et manger un peu, on peut. Mais en faisant ça, juste cette pomme-là, ça fait en sorte que je suis assuré. Tout le monde est assuré. Que les écluses des cieux sont ouvertes. La bénédiction abondante va être sur moi. Et que il va menacer pour moi celui qui dévore. Est-ce que ça vaut la peine de manger cette pomme? Mais j'aime ça. Elle est belle. Ou je vais trouver peut-être qu'il y en a qui est plus petit. Non. On donne le meilleur de notre récolte, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Numéro 1, juste 3 choses pour terminer. Remettez premièrement à Dieu la partie qui lui revient. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. J'aurais besoin d'un couple qui peut m'aider. Est-ce qu'un couple qui peut m'aider? Vous voulez? Oui, pourquoi pas? Nelson et Annie. Aujourd'hui, quelqu'un va être béni un peu. On a quand même... Êtes-tu sûr que j'ai tout? Non? Êtes-tu sûr que j'ai ça? Ici, on a 10 pièces de 2 $. Ça fait combien? Et j'avais à cœur de donner ça aujourd'hui. OK? Donc, mais dans cette histoire, j'aurais besoin de quelqu'un d'autre, un homme ou quelqu'un. Quelqu'un, tu veux m'aider, Daniel? Voici. Qu'est-ce que nous allons faire? Donc, on a 10 pièces. 20 $, 10 pièces de 2 $ chaque. Et juste penser à ceci. On va faire croire que, en fait, je vais donner ça à Nelson. Nelson va jouer le rôle de Dieu le Père ici. OK? Annie va jouer le rôle de son épouse. C'est qui ton épouse? L'Église. Et ici, nous avons Daniel, enfant de Dieu, qui a travaillé fort. OK? Et moi, je vais jouer le rôle de son patron, peut-être, OK? Donc, dans le fond, moi, parce que le patron est un homme de Dieu aussi, a un commerce de camionnage ou quoi que ce soit, donc il est béni, donc il reçoit de Dieu, hein? Les choses, et en fait, j'ai beaucoup plus. Ça, c'est juste une partie, et j'avais déjà donné la dîme, et on aurait la dîme. OK? Et donc, moi, je vais payer à la fin de la semaine, c'est pas beaucoup, mais pour toute une semaine, mais 20 $. 10 pièces de 2 $ chaque. Donc, Daniel a déjà lu la parole de Dieu, il a déjà lu la Bible, il connaît les principes. Donc, c'est quoi la première chose que tu vas faire? À qui? Hein? Parce que il va dire ceci. Attends.
Non, je me dépêche à donner.
Oui, c'est ça. Dans le fond, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est imaginez, hein? Oubliez qu'il joue le rôle de Dieu le Père. Imaginez que c'est juste dans le naturel. Que lui, il avait 20 $ qu'il voulait donner à Daniel. Mais il dit ceci. Voici qu'est-ce que je fais. Je te donne 10 pièces de 2 $, mais je veux que tu en donnes 2 à Annie parce qu'elle a besoin d'acheter un café après l'église ou je ne sais pas quoi. C'est ça. Mais si on amène ça dans le naturel, juste dans le naturel, oublie l'affaire de l'église. C'est juste Nelson, Daniel et Annie. Et Nelson donne à Daniel 20 $, mais il dit, mais dans le fond, je veux te bénir, mais il y a 2 $ que je veux que tu donnes à Annie. C'est à nous et on a besoin de ça. Oui, vas-y. Donc, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient d'obéir à la volonté de celui qui lui a béni, n'est-ce pas? Mais imagine si Daniel aurait fait comme ça. Il a dit, oh, mais écoute, moi, j'avais vraiment besoin de 20 $ ou 19,95. Si je lui donne 20 $, je vais manquer les 5 sous dont j'ai besoin pour acheter mon affaire. Donc, je pense que je vais juste oublier le 2 $. Mais c'est juste 2 $ de toute façon. Si Daniel part avec le 20 $ sans donner le 2 $ à Annie, qu'est-ce qu'il vient de faire? C'est désobéir, on appelle ça comment? Le quoi? Le vol. Parce que le 2 $, c'est pas lui. Il vient de dire, bon, Daniel, voilà, je te donne ça, 20 $, mais il y en a 2 qui appartiennent à elle. Ou qui m'appartiennent, donc donne ça à mon épouse. Et le restant, tu peux gérer comme tu veux. Tu peux le dépenser comme tu veux, ou tu peux s'aimer comme tu veux. Mais si tu es sage, qu'est-ce que tu ferais? C'est ça. Et voici la chose. Première chose, à chaque fois qu'on reçoit quelque chose, sans réflexion, ça doit être en réflexe. Tout de suite, on donne la dîme, parce que ça ne nous appartient pas. Si je ne le fais pas, c'est comme si Daniel parte avec le 20 $. Ouh, j'en avais besoin de 20 $. Mais il y avait juste 18 qui étaient vraiment à sa disposition. Et c'est comme ça. À chaque fois que je reçois, que ce soit 1 $, 10 cents appartiennent à Dieu tout de suite. Si c'est 100 $, 10 $ appartiennent. Si c'est 1 000 $, 100 $ appartiennent à Dieu tout de suite. Et si un jour, je reçois 1 000 000, hein, 100 000 va aller tout de suite. La dîme, c'est même pas une question. Je vais pas poser la question. Est-ce que je vais payer la dîme ce soir? C'est déjà réglé. C'était réglé quand j'avais 10 ans. Et après, je dis, bon, merci. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux avec ça. Non, oui, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous me suivez? Remettez premièrement à Dieu la partie qui lui revient. Deuxième chose, déterminez ce qui reste est du pain ou de la semence. Donc, Daniel a besoin de dire, Seigneur, maintenant, il me reste 9 pièces de 2 $. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce qu'il y a une partie dont j'ai besoin pour nourrir ma famille, ou pour payer mes factures, ou pour mettre de gaz dans l'auto? Ou est-ce qu'il y a une partie que tu veux que je donne aux pauvres, ou que je donne à un missionnaire, ou que je fais autre chose avec, que je donne à l'hôpital Sainte-Croix même, ou je peux donner, vous savez, c'est pas toujours juste dans le contexte de l'Église qu'on peut donner une offrande non plus. Mais il faut que ça soit quand même dirigé par le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui est sage va dire, OK, j'ai donné la dîme à Dieu parce que ça lui appartient. Deuxième étape, je dis, Seigneur, est-ce qu'il y a du pain et de semences? Et puis, une fois que vous avez dans votre cœur la réponse à cela, parce que c'est 2 Corinthiens 9:10 qui dit, celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Donc, et à chaque fois que je reçois quelque chose, Tania et moi, on fait ça depuis des années. Si jamais on a quelque chose de supplémentaire qui arrive, on demande toujours, Seigneur, même si à ma fête, si j'ai 20 $, je demande toujours à Seigneur, Seigneur, après le 2 $ qui te reviennent pour la dîme, est-ce qu'il y a une partie de ça, toute ou une partie que tu veux que j'utilise pour une semence? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ça, c'est la façon de vivre. Parce que ce n'est pas mes choses, c'est ses choses. En réalité, 100% lui appartient. Et si j'ai cette conviction, et je regarde, bon, ça c'est du pain à manger, merveilleux, je vais manger du pain, je vais semer la semence. Celui qui sème beaucoup va récolter beaucoup. Celui qui sème peu va... Donc, quelqu'un qui est sage va planter ou semer généreusement, ça c'est la dernière chose, il va... planter autant de semences que possible. Il va donner le maximum qu'il peut donner et quand même bien vivre. Ou vivre bien. Est-ce que vous me suivez là? Quelqu'un qui a 10 sacs de graines et il donne un sac à Dieu pour la dîme, il reste 9 sacs de grains, il peut faire avec 9 sacs de grains 9 000 pains. Je ne sais pas combien de pains on peut faire avec ça. Et on peut manger toute sa semence ou on peut décider que, bon, moi, je vais juste faire du pain avec 1 de ces sacs ou 2 de ces sacs ou 3 et les 6 autres qui restent, je vais planter. Imaginez combien de récoltes la personne va avoir après avoir planté 6 sacs de graines au lieu d'avoir planté juste un petit grain. C'est ça qu'il faut que vous saisissiez. Si Dieu veut vous aider à garder vos priorités. Donc, donnez la dîme. Demandez, est-ce que c'est du pain, de la semence, pour qu'est-ce qui reste, et semez aussi généreusement que vous pouvez. Et vous allez récolter généreusement aussi. Donnez, il vous sera donné une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Les choses que vous savez déjà, peut-être, pour quelques-uns, pour les autres, c'est peut-être nouveau, mais je vous garantis que la loi de la dîme, la loi spirituelle, le principe de la dîme, et la loi de semer et de récolter, ça fonctionne encore aujourd'hui. Ça marche. Ça marche. On va se lever debout, on va prier. Alléluia. Merci, Père Céleste. C'est un peu trop silencieux, par exemple. Vous êtes en train de réfléchir? Oh, Père Céleste, aide-nous. Vous savez, c'est la première fois que j'ai prêché sur la dîme depuis, je ne sais pas, assez longtemps. Probablement trop longtemps. Mais je crois de tout mon cœur que les principes qu'on vient de voir ici, d'honorer Dieu avec les prémices. Les prémices, c'est-à-dire la première chose que je fais. Je vais juste dire ceci. Si vous recevez de quoi et vous achetez votre nourriture, vous payez vos factures et vous dites, maman, je vais faire toutes mes choses et voir s'il en reste après. Je vous garantis qu'il ne va pas en rester. Mais si vous honorez Dieu en première place, si vous mettez Dieu en premier, vous cherchez premièrement la justice de Dieu, son royaume et sa justice, toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Et juste pour que vous sachiez, regardez-moi, parce que c'est toujours délicat. Pourquoi? Moi, j'ai probablement besoin de presque vous demander pardon de ne pas avoir parlé assez de ces principes. Mais pourquoi? Je vais vous avouer, souvent les pasteurs n'ont pas trop hâte d'en parler parce que les gens vont mal comprendre. Ils vont dire, oh, mais il veut juste, c'est ça, les églises, tout ce qu'ils veulent, c'est notre argent. Mais tout ce que nous voulons, c'est que vous soyez bénis pour que l'œuvre de Dieu soit accomplie. Que tous vos besoins soient rencontrés avec abondance. Savez-vous que seulement 20% des chrétiens, ils ont fait des sondages, en Amérique du Nord, seulement entre 16 et 20% des chrétiens sont fidèles à la dîme. Combien de personnes sont dans la misère inutilement? Combien de plus est-ce que les églises pourraient faire si on pourrait avoir 100% des personnes bénies au bout? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est quelque chose, n'est-ce pas? En tout cas, je vous aime de tout mon cœur. Et moi, si jamais quelqu'un dit, mais moi, je ne peux pas me permettre de payer la dîme, je vous assure, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas le faire. Moi, je ne peux pas me permettre de ne pas honorer Dieu avec la dîme. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je reçois? Juste dans le naturel, souvent, ce n'est pas assez de convenir à tous mes besoins. Vous êtes encore là? Donne-moi 2 minutes de plus, parce que quelqu'un a besoin de ceci, OK? Est-ce que vous pouvez me donner 2 minutes de plus? Il est midi. Et d'habitude, on veut terminer à midi. Mais quelqu'un a besoin de ceci. J'ai besoin d'un morceau de papier, juste vite. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, oui, mais moi, je ne peux pas. Je ne pourrais jamais donner une pomme parce que j'ai besoin de 9. J'ai besoin de 10. Dans le fond, j'ai besoin de 12 pommes pour nourrir ma famille. C'est pas assez. 10, c'est pas assez. J'ai besoin de 15. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas donner une pomme quand je manque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà pensé comme ça? Ne levez pas la main. Voici la chose. Imagine que ça représente votre paye, votre chèque du gouvernement ou votre chèque de paye. Si vous recevez ça une fois par semaine ou 2 semaines ou une fois par mois, vous dites, ça, c'est tout ce que j'ai pour vivre. Exemple, 500 $. Tout ce que j'ai, c'est 500 $ pour vivre. Je ne peux pas me permettre de donner 50 $ à Dieu. Parce que j'ai besoin de tout. J'ai besoin de plus que ça même. Laisse-moi vous dire quelque chose. Vous venez de dire avec votre bouche et de croire dans votre cœur que tout ce que vous allez avoir pour le mois, c'est 500 $. Et tout ce que vous aurez, c'est 500$. Et je suis bien d'accord, c'est loin d'être assez. Mais si par chance, c'est pourquoi surtout quelqu'un qui est dans une situation comme ça ne peut pas se permettre de ne pas honorer Dieu avec la dîme. Parce qu'on reçoit cela, on dit, OK, Seigneur, je reconnais, c'est toi qui es la source de ma vie, c'est toi qui m'as béni. Je sais que 500, ça va être vite passé et ouf, ça va pas toffer, ça va, on serait jamais capable de rejoindre les deux bouts. Mais voici qu'est-ce que je vais faire, Seigneur. Je vais t'honorer. Je reconnais que c'est toi qui es la source de ma vie, même si c'est le gouvernement ou un employeur qui m'a donné ce chèque-là, dans le fond, c'est toi. Et je vais t'honorer avec les premiers 50$, c'est pour toi. Il me reste 450, et là, je vais donner un sein noir d'offrande. C'est pas beaucoup, mais quelqu'un dans une situation comme ça qui donne un sein noir a donné plus que le gars, le millionnaire qui donne 1000. Donc, ça, seulement, c'est énorme. Un sein noir, quand tu n'as que 450 qui restent, c'est énorme et Dieu va honorer cela aussi. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe quand une personne fait cela? Il vient de se mettre sous l'autorité de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Je vais ouvrir pour vous les écluses des cieux. Je vais répandre sur vous une bénédiction abondante. Et je vais menacer pour vous celui qui dévore. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que maintenant, je viens d'enlever les limites. Je ne suis plus en train de dire que ce 500$, c'est la source de ma vie. Dieu est la source de ma vie. Et peut-être quelqu'un va arriver chez vous avec une sac d'épicerie, ou quelqu'un va mettre du gaz dans ton tank, ou quelqu'un va faire quelque chose. Dieu va ouvrir une porte pour que vous puissiez avoir un autre emploi, et vous serez capable d'avoir une augmentation de salaire. Et là, tout d'un coup, tu as Dieu qui agit en votre faveur, pas juste un chèque de 500 qui n'est pas suffisant. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dieu dit. Ça, c'est la liberté. Je veux vous libérer du petit chèque. Donc, c'est une clé. C'est pas la seule clé. Ça va, je ne dis pas que si vous donnez la dîme la semaine prochaine, que tous vos problèmes vont être réglés la semaine après. Il faut prendre une décision une fois pour toutes. C'est un style de vie, je vais le faire. Et ça peut prendre une semaine, deux mois, même des fois deux ans pour rétablir les choses. Ou plus. Mais si vous êtes fidèle, je vous garantis que ça marche. C'est pas juste ça. La semaine prochaine et la semaine après, on va parler de quelques autres principes qui vont de pair avec les offrandes et les dîmes qui sont aussi importants. Comment être béni au travail, par exemple? Comment est-ce que Dieu va vous donner à travers les hommes, à travers votre travail? Mais oh, mais ça, je veux pas travailler, je veux juste recevoir les bénédictions. Non, ça marche pas comme ça. Est-ce que vous m'aimez toujours? Mais je vous aime assez pour vous dire la vérité. Je veux que vous soyez bénis. Amen. On va terminer là. Père, merci. On va juste prendre quelques minutes comme on fait toujours le dimanche matin. On va prier. Je veux juste savoir, est-ce que quelqu'un est ici ce matin? Je connais la plupart des gens ici ce matin. Et qui, vous n'avez jamais donné votre vie au Jésus. Vous avez entendu aujourd'hui que Dieu veut vous bénir. Il veut bénir même vos finances. Il veut vous faire prospérer. Mais laisse-moi vous dire, vous ne pouvez pas avoir la paix, rien qui manque, rien de brisé, à moins d'avoir le prince de la paix, Jésus. Vous pouvez avoir des millions dans la banque et ça ne va pas satisfaire votre âme. En fait, ça peut juste même vous faire plus de mal que de bien des fois. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait, pasteur, il y a quelque chose dans mon cœur, je sais que j'ai besoin de donner ma vie à Jésus. Jésus a dit que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, en levant la main, qui dirait, oui, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus, juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je pense que je connais presque tout le monde, je vois ce matin, mais on va prier cette prière pour se consacrer à la volonté de Dieu, pour se soumettre à son système pour qu'on soit béni. Priez ceci avec moi. Père Céleste, je te donne mon cœur, je te donne ma vie entière au nom de Jésus. Je prends une décision aujourd'hui de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses me seront données par-dessus. Je prends une décision de t'honorer avec les prémices de mes revenus. Et de donner, Seigneur, et de semer généreusement au nom de Jésus. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. J'aurai toujours de quoi satisfaire à mes besoins avec un superflu pour participer à toute bonne œuvre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes content d'être en alliance avec Dieu? Donc on va chanter, on va célébrer.